podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et je vous propose ensemble de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. La mémoire est la sentinelle de l'esprit, disait William Shakespeare. C'est justement de cette mémoire dont on va parler aujourd'hui avec notre invité et comment elle agit cette mémoire sur notre façon de penser, voire même de croire en telle ou telle vérité. Bonjour Ophélie Carreras.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences et chercheuse en psychologie cognitive au sein du laboratoire CLÉ de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous travaillez notamment sur les processus mnésiques et les fonctionnements de la mémoire. Alors la mémoire, Ophélie Carreras, c'est un des sujets auxquels s'intéresse la psychologie cognitive, mais pourquoi justement elle est intéressante cette mémoire ?
Bien, la mémoire, c'est un des processus cognitifs les plus centraux de mon point de vue, parce que c'est tout ce qui nous permet de prendre de l'information dans notre environnement, de la maintenir, de la stocker et de la réutiliser dans nos activités quotidiennes. En fait, si on n'encodait rien du tout, on serait en grande difficulté pour reconnaître notre environnement, reconnaître les gens, parler avec eux, travailler. Enfin, vraiment, ça nous permet en fait de faire toutes les activités quotidiennes. C'est les interactions et le stockage des informations de l'environnement.
Des informations qu'on stocke, donc qui nous formatent quelque part. Et cette mémoire, du coup, elle a un rôle dans la façon dont on va recevoir des informations ?
Alors, elle a un rôle dans la façon dont on reçoit, on interprète et on récupère également des informations. C'est-à-dire que c'est absolument pas une photographie du réel. C'est-à-dire que la mémoire est reconstructive, elle est sélective déjà dans les informations auxquelles on prête attention, parce que l'attention est limitée, la mémoire de travail est également limitée, donc on ne peut pas tout encoder en fait. Donc on fait des choix, on oriente notre attention sur certaines informations au détriment d'autres, et puis de la même façon, on va les ranger, les stocker avec d'autres informations qui nous sont propres, et donc du coup, chaque individu va interpréter le réel finalement de façon un petit peu différente.
Alors ça m'amène à vous amener sur la notion de vérité, de ce qui est vrai pour tout à chacun. Cette mémoire, elle joue un rôle du coup forcément là-dessus aussi.
Disons que c'est sûr que ce qu'on va concevoir comme étant vrai va dépendre des connaissances qu'on a eues, des expériences qu'on a eues préalablement. Et du coup, on ne va peut-être pas tous être d'accord effectivement sur la vérité. Alors on ne va peut-être pas rentrer dans un débat philosophique sur ce que c'est que la vérité, mais effectivement, c'est aussi une construction individuelle et collective.
Nous arrivons à l'évocation de croyances qui sont très répandues, les fameuses théories du complot. Comment est-ce qu'on pourrait les définir, ces théories du complot, Ophélie Carreras ?
Alors, les théories du complot, c'est des explications alternatives en fait à des événements qui sont en général médiatisés. Et donc, des explications alternatives par rapport à une version officielle. Et l'idée des complots, c'est que il y a des petits groupes derrière ces explications qui agissent dans l'ombre et qui auraient des intentions et qui auraient donc des objectifs en fait pour manipuler les gens, ou en tout cas qui auraient des objectifs pour agir dans l'ombre et manipuler effectivement un certain nombre de personnes. Donc c'est vraiment des explications, des récits en fait, des explications alternatives.
Pourquoi c'est problématique ?
Alors pourquoi c'est problématique ? Parce que effectivement ça peut conduire en fait à un certain nombre de dérives, on va dire. Ça conduit souvent à du scepticisme ou à de la méfiance envers beaucoup de groupes, on va dire, alors que ce soit des médias, que ce soit des politiques, que ce soit les scientifiques également. Donc, du côté de la méfiance vis-à-vis de la science, évidemment, il peut y avoir des dérives du côté de, on ne croit pas au réchauffement climatique, on ne croit pas à tout ce qu'on nous dit sur la santé ou sur les vaccins, etc. Et donc, du coup, ça peut conduire aussi à des comportements qui sont, qui peuvent être problématiques pour la planète ou pour la santé des gens. Et également, ça peut conduire à de l'isolement ou de la radicalisation. C'est aussi ce qui a été été mis en évidence. Et c'est vrai que si c'était juste, bon voilà, on croit pas à la version officielle, mais on croit à une interprétation différente, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est des hurluberlus, etc. Mais ça a des impacts importants sur les comportements des gens, en fait.
Et ces théories du complot prennent de l'ampleur, ça veut dire qu'on peut y aller très facilement. Pourquoi on y va si facilement, Ophélie Carrera ? Est-ce qu'il y a des déterminants ?
Alors, il y a beaucoup de déterminants différents, en fait, dans les travaux sur les croyances aux théories du complot. Et c'est pour ça que c'est compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui peuvent influencer ça. L'idée, c'est qu'effectivement, on peut percevoir ça plutôt comme un continuum. Hein. On ne peut pas dire, voilà, il y a les complotistes et puis il y a les autres. En fait, étant donné qu'il y a plein de facteurs qui peuvent jouer, bah, effectivement, on peut aller de certains qui auront ce qu'on appelle la mentalité complotiste, c'est-à-dire une tendance systématique, finalement, à expliquer les événements par des complots sous-jacents, voire même un grand complot mondial. Donc là, on est vraiment à un extrême total. Et puis de l'autre côté, tout un chacun qui peut effectivement se poser des questions sur un certain nombre de choses qui sont arrivées et se dire est-ce qu'il faut forcément croire tout ce qu'on nous raconte sur cet événement-là ? Et puis est-ce qu'on peut pas douter sur un certain nombre de choses ? Donc effectivement, la question du doute et notamment de l'esprit critique est souvent mentionnée, notamment par les personnes qui croient dans les théories du complot, en disant justement, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, il faut douter. Le problème avec ce type de doute qui est mis en avant par ces complotistes ou par ces tenants des théories du complot, c'est que le doute, il est uniquement sur la version officielle. C'est-à-dire que aucun doute, par contre, sur les versions alternatives. Et donc, du coup, voilà, c'est une espèce de dévoiement de cet esprit critique. C'est-à-dire qu'ils se veulent critiques, mais en fait, ils sont critiques de façon unilatérale. Quoi, hein. Donc, ça, effectivement, ça peut expliquer en tout cas un certain nombre de théories.
Et d'un point de vue purement cognitif, qu'est-ce qui se passe quand on adhère à une théorie du complot ? Je sais qu'il y a le rôle des biais qui est très important.
Alors effectivement, il y a plusieurs, donc je l'ai dit, plusieurs déterminants. Donc moi, je m'intéresse pas mal aux déterminants cognitifs.
Ouais.
Donc vous avez évoqué la question des biais. Alors oui, il y a la question par exemple, le biais de confirmation, qui est un biais que tout un chacun on a. C'est-à-dire que on va avoir tendance plutôt à aller chercher des informations qui vont dans notre sens, qui vont dans le sens de ce qu'on croit, dans le sens de nos attentes, et qui vont donc confirmer nos croyances. Ça, c'est un biais générique que tout le monde a, et donc duquel il faut effectivement se méfier, c'est-à-dire se dire, finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller voir un petit peu ailleurs que dans les sphères dans lesquelles je regarde, de lire des choses un petit peu différentes, d'écouter des émissions un petit peu différentes que celles que j'écoute toujours, parce que voilà, on a tendance vraiment à rester toujours dans le même type d'explication. Et ça, typiquement, sur les théories du complot, ça joue à plein parce que effectivement, souvent, c'est on va aller chercher que des informations qui vont valider les choses.
Ah ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Le fameux « ah ben voilà, c'est bien ce que je pensais ».
Et comme par hasard.
Et comme par hasard. Voilà.
Et alors, ça, c'est une autre, la question du hasard et des ce qu'on appelle les corrélations illusoires. C'est un autre phénomène, effectivement, qui peut aussi expliquer. C'est-à-dire qu'on a tendance, tout un chacun ici encore, à chercher du sens, en fait, dans les événements aléatoires. On a tous vu des choses dans les nuages, on a tous vu dans la fumée du World Trade Center une espèce de visage maléfique qui sortait. Donc on interprète, en fait, comme on le disait au début, on interprète le réel et on a tendance à chercher du sens, à chercher à comprendre les choses. Et donc, deux événements qui vont arriver en concomitance, même si c'est totalement le hasard, on va avoir tendance à dire ils sont liés, ces deux événements. Par exemple, pour les croyances prémonitoires, c'est quand même dingue, j'ai rêvé de machin et le lendemain je l'ai vu. C'est pas possible que ce soit le hasard. Sauf que le nombre de fois où on a rêvé de machin et où on ne l'a pas vu le lendemain, ça,
on l'a oublié.
Enfin, on ne le note pas. Hein,
donc, et vous dites, ça s'appelle ?
Alors les corrélations illusoires, c'est le fait de lier des événements qui en fait ne sont pas du tout liés par ailleurs, c'est-à-dire qui surviennent de façon proche, mais de façon aléatoire. Et donc, on va aller chercher un lien et un sens. Pareil, sur le vaccin du Covid, je connais machin, il s'est fait vacciner, le lendemain, il est mort, dis donc. Et bidule aussi, d'ailleurs. Et si on va chercher, avec le biais de confirmation, plein d'autres informations comme ça, il y en a plein, en fait, des gens qui sont morts après s'être fait vacciner. Si on rapporte ça au nombre de gens qui ne sont pas morts après s'être fait vacciner, on relativise un petit peu l'information. Mais le biais de confirmation va faire en sorte qu'on va aller chercher, on va retenir surtout en mémoire surtout ces informations-là.
Ça veut dire que ça répond à quel besoin ? Parce que vous aviez évoqué l'importance du sens tout à l'heure. On a besoin de comprendre quelque chose qu'on ne peut pas s'expliquer ?
On a besoin de comprendre, on a besoin d'avoir le sentiment de contrôler notre environnement aussi. C'est-à-dire que le besoin de contrôle, c'est aussi quelque chose qui est souvent mentionné dans les explications des théories du complot. Donc le besoin de pouvoir contrôler son environnement, de pouvoir être rassuré par une explication. En fait, se dire, c'est vrai que l'esprit scientifique, c'est toujours de se dire, de douter et puis d'arriver à dire que des fois, on ne sait pas en fait. Et c'est vrai que pour le Covid, typiquement, au début, on ne savait pas. Les scientifiques ne savaient pas. Et il y a plein de gens que ça angoisse énormément de ne pas savoir. Et le fait d'avoir une explication plus simple, plus rapide, ça rassure finalement. Et donc, c'est plus facile pour certaines personnes, effectivement, de se dire, même si cette explication-là, elle n'est pas validée, il n'y a pas de preuve particulièrement, mais ça me rassure parce qu'il y en a une, parce que voilà, ça donne du sens finalement au phénomène. Alors que les scientifiques, ils disent, on ne sait pas, on cherche. Oui, mais ils sont bien gentils, mais moi, j'ai besoin de savoir, en fait. Donc, c'est vraiment ce besoin de compréhension, de contrôle et de comprendre en fait l'environnement.
Et ça, la psychologie cognitive l'a bien démontré.
Les aspects besoin de contrôle, oui, il y a des aspects cognitifs aussi là-dedans. Mmh.
Les théories du complot, elles sont renforcées, en tout cas, oui, largement diffusées par Internet. Donc, je voulais qu'on aborde ce point avec vous, Ophélie Carrera, sur le fait qu'Internet est l'action des algorithmes peuvent nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles informationnelles ou des bulles d'intérêt. Donc ça n'aide pas à sortir de nos biais, à sortir de nos imprégnations, de nos conditionnements, j'imagine.
Tout à fait. C'est-à-dire que, alors effectivement, les théories du complot, il y en a toujours eu, mais avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux et du partage rapide des informations, eh bien, c'est un phénomène qui prend effectivement de l'ampleur parce que c'est de plus en plus facile de partager l'information. Comme vous le dites, la notion de bulle et des algorithmes qui vont aller nous amener, qui vont nous bercer finalement dans le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va chercher tel type d'information, donc les algorithmes vont nous ramener aussi ce type d'information et donc du coup, on va continuer à boucler effectivement dans les mêmes informations. Et ça, du coup, ça me permet de faire le lien avec le travail qui a été mené donc par Jérémy Bénat lors de son doctorat, qui était justement sur ce qu'on appelle l'effet de vérité, illusoire en fait, c'est souvent appelé effet de vérité tout court, qui est le phénomène selon lequel plus on voit une information, plus on a le sentiment qu'elle est vraie. Et en fait, donc ça a été mené, c'est des travaux qui ont été mis en évidence depuis longtemps sur des propositions neutres, du type, il n'y a pas de serpent familier en Écosse et au Groenland. C'est quelque chose dont on ne sait pas trop. Et donc, ces affirmations-là, si elles sont vues plusieurs fois, on va avoir tendance à penser que c'est plus vrai que quand on les voit pour la première fois. Et donc, le travail qu'a mené Jérémy, ça a été de mettre ça en évidence aussi avec des propositions complotistes. Donc, on proposait à des participants dans une première phase de juger de l'intérêt d'un certain nombre de propositions. Donc, est-ce que cette proposition est intéressante ou pas ? Donc, il y avait des propositions neutres et puis il y avait des propositions de type théorie du complot. Dans un deuxième temps, on demande aux gens de juger de la vérité, en fait, d'autres propositions, dont certaines avaient déjà été vues et dont d'autres sont nouvelles. Et on observe qu'il y a un biais positif, en fait, de ce que j'ai déjà vu, j'ai tendance à le trouver plus vrai. Donc ça peut être expliqué par justement la mémoire, le fait qu'on a déjà encodé une information, donc on a un sentiment de familiarité avec cette information, et finalement, ce sentiment, on va l'utiliser un petit peu par erreur, finalement, pour décider que, ça doit être vrai. Et donc ce phénomène-là, avec les réseaux et justement le partage régulier d'informations, il peut être énormément amplifié. Et alors, encore une fois, c'est pas le déterminant majeur, mais c'est un des déterminants qui peut aussi jouer sur la propension à croire à des informations, alors que ce soit théorie du complot ou fake news, etc. Mais voilà, plus je vois une information, plus j'ai tendance à penser qu'elle est vraie.
Ce que vous nous racontez là, Ophélie Carrera, ça nous montre qu'on est tous exposés en fait au danger de nos biais, puisqu'on en a tous, c'est
tout
nos fonctionnements.
Tout ouais. à fait, c'est notre fonctionnement
Personne
normal.
Personne n'est plus intelligent que l'autre, en fait. Hein.
Ah ben bah ouais. non, et puis c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il ne faut vraiment pas se dire que bah, voilà, les gens qui croient à la théorie du complot... Alors, il y a des déterminants psychosociaux aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il voilà, y a des études qui ont montré que voilà, les bords politiques extrêmes, les personnes alors parfois très anxieux ou paranoïdes, etc., les gens avec un petit peu moins d'instruction, etc., ça s'était associé aussi à plus de croyances aux théories du complot. Néanmoins, c'est assez faible finalement comme association, et encore une fois, c'est pas les seuls déterminants de ces croyances. Donc il faut pas penser que voilà, les gens qui croient aux théories du complot, bah voilà, c'est des gens qui ont rien compris, qui sont bêtes, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et tout un chacun, on est amené effectivement à pouvoir être tenté par ce type de croyances.
Alors il y a des leviers, paraît-il. Quels sont-ils ?
Alors, c'est compliqué, ouais. C'est sûr, c'est compliqué, mais alors, comme on l'a dit, hein, la question des biais, je pense que de l'éducation aux biais, en fait, apprendre
savoir
aux
qu'ils
gens,
existent, déjà,
voilà,
ouais.
apprendre aux gens que comment ils fonctionnent, en fait, hein, apprendre aux gens comment fonctionne la mémoire, comment on tord les informations, en fait, comment on peut créer des faux souvenirs très facilement, comment, donc voilà, tous ces biais, en être conscient, savoir que le biais de confirmation, il existe, hein, il est très spontané, et donc du coup, essayer de lutter contre, se dire ben voilà, quand je vais chercher une information ou alors se dire, ben, la personne de tel bord politique, ben non, je veux pas l'écouter, hein. Je suis la première à dire non, moi je veux pas écouter parce que ça me rend malade, mais c'est intéressant d'écouter en fait, parce que c'est un autre son de cloche, parce que ça permet de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre qu'est-ce que les gens vont chercher là-dedans, et du coup c'est vrai que ça nous permet de sortir de ces biais, donc éduquer effectivement aux biais, éduquer à l'esprit critique aussi, vérification des sources, questionnement sur la crédibilité des sources, d'où vient l'information. Alors je sais plus quel réseau social c'était, parce que j'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, mais j'avais vu, je voulais partager une information une fois que j'avais vu déjà par ailleurs, mais je n'avais pas cliqué sur le lien pour aller la lire. Et en fait, on m'a dit, attention, enfin, vous voulez transférer une information que vous n'avez pas lue, que vous n'avez pas activée, êtes-vous sûr de vouloir le faire ? Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et je pense qu'il y a des possibilités aussi de ce type-là, c'est-à-dire d'inciter les gens à se questionner sur une information avant de la partager, par exemple. Donc, pour éviter, effectivement, d'avoir des choses qui traînent, et effectivement, des choses qu'on ne lit pas, c'est rigolo, allez hop, on passe. Donc voilà, il y a des petits leviers, hein, de ce type. Il y a des travaux qui montrent que utiliser l'humour aussi, ça peut être donc voilà, tourner en dérision. D'ailleurs, il y a des faux
ça
documentaires.
Prendre une certaine distance en fait, ouais, par rapport aux choses.
Il y a des faux documentaires sur les théories du complot, par exemple, qui sont assez rigolos, qui permettent parfois de prendre conscience.
Il y a un site internet aussi qui fait des vraies fausses informations, mais c'est assumé. C'est le Gorafi.
Gorafi, tout à fait, tout à fait.
Excellent. Mm-hmm. Ophélie Carreras, on pourra en parler pendant des heures. Mais à un moment donné, on air, ferme les portes. Il y a une tradition avant de se quitter. Est-ce que vous auriez un conseil justement de lecture d'expos, documentaires, conférences, livres, ce que vous voulez à nous conseiller ?
Un petit livre de Pascal Wagner-Egger qui s'appelle « Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration », qui est paru donc aux presses universitaires de Grenoble et qui est un petit ouvrage très intéressant qui vraiment fait le point sur les recherches en psychologie. Vous pouvez le retrouver aussi dans des conférences sur Internet. Et puis, il y a aussi des conférences de Sylvain Delouvet, qui est un psychologue social de l'Université de Rennes 2.
Un très grand merci, Ophélie
Carreras. Merci à vous.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet, du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Et vous pouvez bien sûr retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.